Je l'ai complètement bouleversée. Et donc, elle a connu, à la suite de cette visite, un chagrin et une peur immense. Et finalement, c'est son papa qui est venu la réconforter et qui a senti l'angoisse qui l'étreignait, parce qu'il a réalisé que une des peurs de Cory, c'était par exemple de perdre son papa. Et puis il y avait la découverte de la mort, tout simplement. Et son papa l'a serré dans ses bras en lui disant « Mais Cory, ne t'inquiète pas. Quand nous allons à Amsterdam en train, quand est-ce que je te donne ton billet ? Est-ce que je ne te le donne pas au moment où on monte dans le train ? Parce que je sais que c'est là, à ce moment-là, que tu vas en avoir besoin. Je ne vais pas te le donner 15 jours avant ou un mois avant. Non, je te le donne au moment où tu montes dans le train, parce que je sais que c'est à ce moment-là que tu vas en avoir besoin pour ton voyage. Eh bien, tu vois, Cory, le jour où tu devras passer par cette étape qui s'appelle la mort, Dieu te donnera le billet. Pas avant. Tu n'as pas besoin du billet maintenant. Au moment où tu seras dans cette situation, Dieu te donnera le moyen de passer par cette vallée et de passer de l'autre côté. Et finalement, Cory a expérimenté ceci, non seulement au moment de son décès, après d'ailleurs 5 dernières années de sa vie pendant lesquelles elle a été quasi grabataire et où elle a vécu parfois des moments difficiles. Elle a été encouragée, elle a été très honnête dans ces 5 dernières années très difficiles. Mais quand on sait ce qu'elle a vécu à Ravensbrück, en camp de concentration, quand sa chère sœur Betsy, qui était beaucoup plus fragile qu'elle, mais tellement aussi comparée à elle-même, c'est elle qui le dit, tellement plus mûre, la manière dont Betsy avait compris le langage de Dieu dans la souffrance qu'elle connaissait. Combien Betsy a su encourager sa sœur Cory, n'est-ce pas ? Et puis finalement, mourir autour de Noël, ça a été un moment excessivement difficile après tout ce que ces deux sœurs avaient déjà vécu, et puis comment finalement, parce que l'administration du camp a fait une erreur. Ça, c'était la souveraineté du Dieu qui ne fait jamais d'erreur. Et c'est ainsi qu'elle a entendu son nom, son numéro matricule être prononcé, qui la faisait sortir du camp, parce que dans sa souveraineté, Dieu avait prévu d'une part de lui donner le ticket pour pouvoir voyager dans ce train terrible de Ravensbrück, mais ensuite il avait un ministère à partir de 1945 et qui a duré des dizaines d'années, qui l'a fait parcourir, je dirais, la terre entière, et tout d'abord en annonçant le message de la croix et du pardon de Dieu aux habitants d'Allemagne après la guerre. Pendant les toutes premières années, elle allait de lieu en lieu pour annoncer le message du salut, du pardon, de la grâce de Dieu à ces Allemands qui étaient alors complètement traumatisés, n'est-ce pas, par tout ce qu'ils avaient vécu, fait, etc., etc., n'est-ce pas. Et puis ensuite, Dieu l'a emmené partout ailleurs dans le monde. Hein. Donc, nous avons dans l'histoire passée, c'est vrai, des exemples qui nous font froid dans le dos, dans le domaine des persécutions, mais combien de messages lumineux de la part de ceux qui nous ont précédés dans la souffrance et dont Dieu a fait de véritables vainqueurs. Dieu leur a donné le billet. Alors ça, je tenais à fortement le souligner, avant donc d'ouvrir pendant le temps qui nous reste, une porte qui sera alors vraiment grande ouverte pour nos deux études de demain. Je voudrais considérer donc à partir de maintenant, on élague et on laisse tomber toutes sortes d'autres sujets parce que on aurait pu parler de l'origine première, la souffrance, etc. Mais je pense que nous sommes ici certainement en forte majorité, sinon peut-être en totalité, ce serait souhaitable, de véritables enfants de Dieu. Et je voudrais que nous ayons maintenant, à partir de là, quelque chose qui colle avec nos besoins, n'est-ce pas, pour continuer notre combat. Donc, j'aimerais que jusqu'à demain après-midi, à partir de là, nous considérions la souffrance sous toutes ses formes comme une école vers la maturité spirituelle. La souffrance vue comme une école vers la maturité spirituelle. J'aimerais à cet égard que nous lisions dans Deutéronome chapitre 8, donc le cinquième des rouleaux de Moïse dans l'Ancien Testament, Deutéronome chapitre 8, les versets 2 à 5. Les versets 2 à 5 de ce chapitre 8, Moïse est en train de s'adresser à une nouvelle génération d'Israélites. La plupart de ceux qui devaient mourir, la génération condamnée à cause de son incrédulité, sont morts. Il a tout un message pour la nouvelle génération, celle qui va enfin entrer dans le pays où coule le lait et le miel. Et au verset 2, il est dit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. » Et puis dans le Nouveau Testament, en filigrane, ce qui va nous accompagner, c'est ce beau texte de Jean 12. Jean chapitre 12, versets 23 à 26, où, si l'on comprend bien le texte d'après le contexte immédiat, une porte de facilité vient de s'ouvrir devant le Seigneur Jésus, qui vit des moments de plus en plus difficiles parce que la croix se profile de plus en plus près désormais, l'hostilité des principaux du peuple est de plus en plus intense, ils essayent de toutes les manières possibles de le coincer, de le piéger, de le faire trébucher pour pouvoir l'accuser, le condamner, n'est-ce pas? Et il y a donc ces Grecs au verset 20 qui lui font dire par Philippe de Bethsaïda, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Comme s'ils disent, « Mais écoute, nous sommes prêts à accueillir ton message. » Et quand Jésus apprend cela par Philippe, qu'il a dit à André, et André le lui disant, il leur répondit, verset 23, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Je ne sais pas si certains ont acheté mon livre « Fidèle quoi qu'il en coûte » à l'époque où sa couverture était différente. Vous avez une autre couverture actuellement, il en est à sa troisième édition. J'ai beaucoup aimé cette couverture. Et je l'ai aimé non seulement à cause de ces couleurs de l'arc-en-ciel que j'évoque dans le livre, mais aussi à cause de ceci, du diamant, dont il est aussi question dans le livre. Et pourquoi? Parce que j'évoque ces questions de souffrance dans ce livre. Et j'ai appris qu'il existe un moyen sûr de faire la différence entre un faux et un vrai diamant. Je n'en ai jamais fait l'expérience parce que les diamants ne sont pas notre fort. Il y en a de très beaux qui nous attendent là-haut. Mais en tout cas, on m'a confirmé que c'était tout à fait ça. Il paraît qu'un faux diamant ne brille jamais comme un véritable. Sous l'eau, le faux diamant est éteint, alors que le vrai diamant continue à scintiller. Et c'est là la réponse d'un bijoutier. Alors bien sûr, il y a d'autres moyens scientifiques pour repérer, faire la différence entre les vrais et les faux diamants. Il paraît que les vrais diamants deviennent fluorescents, exposés aux rayons X. Mais enfin, là encore, je le laisse à ceux qui s'y connaissent. Les circonstances difficiles, l'épreuve de l'eau, si tu traverses les eaux, je serai avec toi, n'est-ce pas? L'eau a toutes sortes de significations et symboles d'un tas de choses dans les Écritures. Mais en particulier, elle évoque cette dimension de l'épreuve. Les circonstances difficiles sont des révélateurs de l'authenticité de notre foi. Ce sont de véritables radiographies du cœur. L'épreuve, en quelque sorte, est une preuve d'authenticité. Et puis, toujours concernant le diamant, j'ai sous les yeux une définition qui est à moitié scientifique, et je dis à moitié tout simplement parce qu'elle ne va pas jusqu'au bout du raisonnement. Mais néanmoins, cette définition est tout à fait exacte. Un diamant est un morceau de charbon qui a fait son chemin sous la contrainte. Et c'est vrai. Le diamant est un morceau de carbone, de charbon, qui a fait son chemin sous la contrainte. Et Swindoll, dans son commentaire sur Job, écrira ceci: de même que les diamants sont formés par la pression et les perles par l'irritation, hein, les vraies perles, vous le savez, c'est ces grains de sable qui s'attaquent au tissu de l'huître, n'est-ce pas, et qui l'amènent à sécréter ce qui va être finalement la perle, n'est-ce pas. Et ces sécrétions enrobent progressivement le sable qui est en train de faire des dégâts et deviennent de plus en plus importants, et de cette manière l'irritation cesse, n'est-ce pas. Et ensuite on va pêcher ces huîtres perlières. Maintenant on a d'autres procédés, mais là aussi ce n'est pas notre sujet. Alors, de même que les diamants sont formés par la pression et les perles par l'irritation, la grandeur est forgée par l'adversité. Les circonstances difficiles sont les outils privilégiés dont Dieu se sert pour façonner une vie chrétienne authentique. L'épreuve est non seulement la preuve, une preuve d'authenticité, mais l'épreuve est aussi une école d'authenticité. J'ai relevé ce petit jeu de mots, en quelque sorte. Le Seigneur nous fait entrer dans sa chambre noire pour développer notre caractère. Le Seigneur nous fait entrer dans sa chambre noire pour développer notre caractère. J'ai là également un beau témoignage, c'est celui d'Ami Carmichael, ou Carmichael prononcé à la française. Ami Carmichael a été une missionnaire d'envergure. Elle est née en 1867 et décédée en 1951. Elle a œuvré pendant des dizaines d'années en Inde, avec une vocation toute particulière qui consistait à faire échapper à leur sort cruel ces milliers, dizaines de milliers de fillettes qui étaient livrées à la prostitution sacrée. Et elle a donc ouvert des orphelinats, elle a fait un travail absolument remarquable dans de grandes difficultés pendant de nombreuses années. Elle avait une santé fragile qui finalement l'a même obligée à s'aliter pendant les dernières années de sa vie. Je crois qu'elle a dû écrire, je ne sais pas si c'est pas 30 à 35 livres, et d'une richesse spirituelle absolument remarquable. Et j'ai là un de ses témoignages. Donc 55 années de ministère comme missionnaire. En parlant d'une expérience qu'elle avait vécue étant enfant, elle écrit: « Quand j'étais jeune, j'avais l'habitude d'enfoncer mes mains dans la boîte à farine dès que j'en avais l'occasion. Rien, ni la peau de phoque, ni le pelage d'un chat, ni le velours, ni même l'eau, ne me semblait aussi merveilleusement doux et délicat que la fleur de farine. Plus tard, quand j'ai lu Lévitique et Nombre, et que j'ai découvert que la farine était utilisée comme type de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai compris au moins une raison pour laquelle on le comparait à la fleur de farine. Celle-ci a été moulue au plus haut point. Notre divin Sauveur était de la fleur de farine dès le début. Et pourtant, d'une manière terrible, il est passé au moulin de dures épreuves. Il a souffert, il a été tenté. » Alors, une question se pose lorsqu'on évoque la souffrance comme école vers la maturité spirituelle. La question est la suivante. quelle est la place de Dieu et quelle est la place de Satan dans la souffrance? Ça, c'est une grande question. Et elle est intéressante. Quelqu'un écrit ceci: à partir de l'instant de votre conversion, le diable vous inscrit dans son carnet d'adresse. Quels sont les rôles respectifs de Dieu et de Satan dans les difficultés que rencontre le disciple de Jésus-Christ sur sa route? Voilà une grande question. Et la réponse à cette question, nous allons la trouver. N'ayez pas peur. En analysant un mot des Écritures, que nous allons examiner d'ailleurs dans les Écritures, c'est un petit mot grec. Je vais utiliser, si je la trouve, oui, une pièce. J'ai la fameuse pièce dans ma poche, elle est là. C'est une pièce de 2 euros. Nous allons considérer que cette pièce, dans son ensemble, porte ce nom générique que nous avons évoqué, le mot souffrance. Souffrance, bien sûr, sous toutes ses formes, n'est-ce pas? Cette pièce a un côté pile et un côté face. Côté pile, côté face, en grec, associé au mot souffrance, un petit mot qui a deux sens, qu'il faut mettre côte à côte et analyser. Un petit mot qui veut dire, qui peut être traduit à la fois par épreuve et par tentation. Un petit mot grec, vous allez le trouver dans le Nouveau Testament, tantôt il sera traduit en français par le mot épreuve, tantôt il sera traduit par le mot tentation. Alors il faut qu'on essaye de comprendre. Manifestement, donc, la souffrance à cette double dimension d'épreuve et de tentation. Alors, prenons un texte dans l'épître de Jacques, vers la fin du Nouveau Testament, Jacques, chapitre 1er, versets 12 à 15. Jacques, chapitre 1er, versets 12 à 15. Alors avant de prendre les versets 12 à 15, je vous fais remarquer que cet épître éminemment pratique commence, après l'adresse et les salutations, par évoquer les épreuves. Mes frères, verset 2, regardez comme un sujet de joie complète les épreuves variées, pourrions-nous traduire, colorées, bigarrées, auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve, ici c'est l'examen, la mise à l'épreuve, l'examen de passage, la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience, ou plutôt la persévérance, la constance, l'endurance, la ténacité, le fait de tenir le coup dans une situation difficile. Mais il faut que cette endurance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait, c'est-à-dire adulte, accompli, et qu'il ne vous manque rien littéralement. Alors, verset 12, heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Manifestement, les destinataires de cette lettre avaient des problèmes justement dans la compréhension de la souffrance et dans le rôle de Dieu, le rôle de la puissance des ténèbres dans le domaine de la souffrance. Alors, Jacques commence par une affirmation forte, elle est claire ici, Dieu ne tente jamais. Mais on s'attendrait, dans ces versets 13 à 15, à trouver alors quelqu'un d'autre. C'est-à-dire Satan. Or, Jacques n'évoque pas Satan dans le texte. Il souligne que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est-à-dire que, en quelque sorte, par la bouche de Jacques, Dieu prive le croyant d'un bouc émissaire. Il dit que c'est trop facile de toujours en train de s'en référer au diable. Le problème, initialement, dans nos vies, il est chez nous. Il est dans notre nature. Et même si nous avons notre nouvelle nature, nous le verrons demain, notre vieille nature gigote encore pas mal si nous ne la maintenons pas clairement sur la croix, n'est-ce pas? Et donc, il y a en nous une propension, une tendance à pécher, c'est là dans notre nature. Et bien entendu, la puissance des ténèbres va travailler, il va nous travailler au corps à ce niveau-là, n'est-ce pas? Mais c'est nous d'abord qui sommes responsables. Il faut que nous soyons clairs là-dessus parce qu'il y a aussi une mode qui consiste à voir le diable partout, à voir des démons partout et finalement à se dédouaner de la responsabilité de son péché, de ses problèmes en disant ben oui, j'ai un démon, qu'est-ce que vous voulez, vous avez des bouquins qui sont sortis à un moment donné, il y a eu la mode Rebecca Brown, je ne sais pas si certains d'entre vous avez lu, je ne vous le souhaite pas d'ailleurs, mais c'était une femme médecin américaine qui vivait dans un déséquilibre incroyable dans ce domaine, qui a donné une place à Satan, n'est-ce pas, dans les situations difficiles que connaît l'homme, et ça allait extrêmement loin, et ça a détruit des églises. Moi, je pense, en vous disant ceci, à une église en France qui a été totalement détruite, qui n'existe plus. Pourquoi? Parce que on en était venu à faire des séances d'exorcisme pendant l'école du dimanche, pour que les enfants soient délivrés de tel et tel et tel et tel démon, et nous avons connu ça de très près. C'est tragique, n'est-ce pas? Donc, simplement, une chose est claire, Dieu ne tente jamais. Alors, bien entendu, Satan verse l'huile sur le feu, il attise la cendre, lui, en tant que tentateur, utilise nos convoitises, c'est-à-dire les désirs qui sont en nous, les désirs de l'hippopotame moi, comme disait la maréchale Bousse, pour nous amorcer, nous conduire à la mort. Le but de la puissance des ténèbres est méchant. Satan vise la destruction, il vise la chute, il vise la mort, il vise l'enfer, il pousse l'homme à pécher. Derrière la tentation se trouve toujours une connotation négative, une connotation de destruction. Satan et destructeur. Tenter, c'est donc mettre à l'épreuve de manière négative, et c'est quelqu'un qui nous veut du mal qui le fait, qui met notre force morale à l'épreuve dans le but de nous faire succomber. La tentation est une séduction, une sollicitation au mal, sa dimension est négative. Et puis vous avez alors Dieu. Si Dieu ne tente jamais, par contre, la Bible nous dit de manière claire qu'il nous éprouve. Il nous éprouve. Vous avez même déjà dans l'Ancien Testament, Genèse 22, verset 1er, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il n'est pas dit que Dieu tenta Abraham. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Genèse, chapitre 22, verset 1er. Et quand Dieu éprouve, il met à l'épreuve pour amener son enfant à un choix qu'il désire positif. Il veut faire du bien, il veut construire, il veut purifier, il veut bénir par des situations qui sont des situations de dépouillement, mais il vise le ciel. Il vise le ciel parce qu'il nous aime. Et ceci est dit dans les versets suivants, versets 16 et 17. « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Ne vous trompez pas dans vos attributions, n'est-ce pas? Ne faites pas n'importe quoi. D'un côté, vous vous laissez tenter à cause de votre corruption naturelle, il est si, hélas, si facile de succomber aux tentations quand on manque de vigilance, etc. Mais ça, ce n'est pas Dieu. Dans ce domaine, Dieu ne peut pas être le tentateur. Le diable est essentiel dans cette situation. Par contre, Dieu, lui, nous éprouve. Il vise le ciel parce qu'il nous aime. Il y a là une dimension qui est totalement positive. Alors, je reprends ici ma petite pièce. Mon petit mot grec. Chaque tentation où chaque épreuve a sa dimension de tentation. Chaque fois que nous sommes éprouvés, la puissance des ténèbres utilise l'épreuve pour nous tenter. Elle essaye de détruire ce que Dieu veut construire dans notre vie. Dieu vise le ciel. Elle vise l'enfer. Dieu éprouve, Satan est là pour bondir et pour faire des dégâts. Maintenant, l'inverse est vrai aussi. D'un côté, chaque épreuve a sa dimension de tentation parce que Satan cherche à s'en emparer, à la polluer. Et de l'autre côté, chaque tentation a sa dimension d'épreuve. Chaque fois que l'ennemi se dresse dans ma vie au détour du chemin pour me faire succomber en me tentant, dans le cœur de Dieu, cette tentation devient une épreuve. Dieu s'en sert comme d'une épreuve. Il veut que je connaisse la victoire sur la tentation, n'est-ce pas ? Et cette lutte avec les armes de Dieu, dans des situations parfois extrêmement difficiles, va contribuer à ma croissance spirituelle. Chaque épreuve a une dimension de tentation, chaque tentation a une dimension d'épreuve. D'où l'usage d'un seul mot dans le grec du Nouveau Testament. Et c'est aussi la raison pour laquelle, quand vous lisez un certain nombre de textes dans plusieurs versions, dans des versions différentes. Dans deux versions, vous allez parfois trouver dans l'une le mot épreuve, dans l'autre le mot tentation. Les traducteurs ont parfois quelques peines à faire la part des choses. Il y a des textes où c'est très clair, où le contexte est un contexte de tentation. À mon avis, par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 10, on y viendra, d'ailleurs c'est un 13-10, 1 Corinthiens 10-13, pardon. 1 Corinthiens 10-13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alors, vous avez certaines versions qui ont utilisé le mot épreuve ici. Mais c'est un peu regrettable. Parce que quand on lit les versets qui précèdent, il est question, à partir du verset 6, et déjà au verset 5, de ceux qui n'ont pas été agréables à Dieu dans le désert, qui ont eu de mauvais désirs, qui ont été idolâtres, qui se sont livrés à la débauche. Ne tentons point le Seigneur comme quelques-uns le tentèrent, ne murmurons point. Le contexte est un contexte négatif. Donc on peut comprendre que ce petit mot grec au verset 13 ait été rendu par le mot tentation, parce qu'il y a eu une quantité de tentations dans le désert auxquelles, hélas, le peuple d'Israël a succombé. Voyez ? Dans d'autres textes, c'est un peu plus difficile de choisir lequel de deux mots, mais enfin, peu importe. Ce qui est important pour nous ce soir, et c'est là que je voulais en venir dans la conclusion de cette deuxième étude, j'ai sorti cette petite pièce de ma poche. Originellement, de ton porte-monnaie. La question qui se pose est toute simple. Quand il s'agit de la souffrance, dans cette double dimension, n'est-ce pas ? Épreuve, tentation, tentation, épreuve. De quelle poche sort-elle ? De la poche de Satan ou de la poche de Dieu ? Là est toute la question. Et finalement, quand on commence vraiment à comprendre clairement que cette pièce de la souffrance n'est jamais dans la poche de Satan, elle est dans la poche de Dieu. La pièce de la souffrance est dans la poche de Dieu. C'est-à-dire que Il est souverain. 1 Corinthiens 10, 13 le dit de manière si claire, n'est-ce pas ? Hein, vous avez remarqué, on va reprendre ce texte parce qu'on va fortement l'illustrer ainsi que d'autres demain. Hein, je reprends. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il contrôle ! Parce que la pièce est dans sa poche. Il contrôle. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Ça veut dire qu'il y a une issue, n'est-ce pas ? Afin que vous puissiez l'endurer, la supporter. Nous devons donc d'abord supporter, puis sortir de cette situation. Mais c'est absolument fondamental pour le disciple de Jésus-Christ de bien situer dans la poche de qui se trouve la pièce de toutes les souffrances que nous pouvons connaître ici-bas. C'est un grand message, mais qui parcourt l'ensemble des Écritures quand on voit que ce soit Jérémie. Regardez Jérémie dans les Lamentations de Jérémie, qui est un livre très douloureux. C'est un cantique pour les jours de deuil, littéralement, la manière dont il commence, des dizaines et des dizaines de fois, Jérémie, qui est en train de circuler au milieu de Jérusalem en ruine, il voit des cadavres autour de lui, des rivières de sang, il voit des choses absolument abominables. Il a derrière lui une quarantaine d'années de ministère, pendant lesquelles il a averti le peuple de Juda de ce qui lui pendait au nez s'il continuait à se conduire comme il le faisait à l'égard de Dieu, n'est-ce pas, depuis 40 ans. Et maintenant, au bout de 40 ans de prédication, alors qu'il va d'ailleurs échapper de peu à l'emprisonnement et à la déportation, il est là au milieu des ruines de Jérusalem. Et voyez-vous, ce qui est frappant, c'est que pas une seule fois dans les lamentations de Jérémie, il ne prononce le mot Babylone. Pas une seule fois, il ne prononce le mot Chaldéen. C'était les Babyloniens. Alors que dans la fin du livre de Jérémie, dans les derniers chapitres, des dizaines de fois, deux chapitres de la fin du livre de Jérémie sont consacrés à Babylone. Mais quand il erre en larmes, avec une crise de foi, n'est-ce pas, il vomit sa bile, tellement il est bouleversé par le spectacle des souffrances liées à l'intervention d'un Dieu qui a dû, dans cette situation, juger, n'est-ce pas? Et encore, la Bible nous dit, les prophètes nous disent qu'il l'a fait avec mesure par l'exil. Avec mesure. Eh bien, pas une seule fois, son regard ne se tourne vers les Babyloniens pour dire « ce sont eux ». Continuellement, et j'ai noté, vous le lirez, vous verrez, c'est absolument impressionnant. J'ai fait des comptes, alors que dans Jérémie, vous avez 161 fois, je crois, oui, même plus avec d'autres termes, le mot Babylone. Dans les chapitres 50 à 52, au moins 75 fois Babylone, plus 17 fois la Chaldée. Dans Lamentation de Jérémie, zéro mention de Babylone, mais par contre, par exemple au chapitre 2 des Lamentations de 1 à 9, vous avez 30 fois sur les lèvres de Jérémie la mention de Dieu. Il regarde et il voit Dieu partout dans cette situation. Pas les Babyloniens. La pièce est dans la poche de Dieu. Et c'est ce qui va l'amener finalement, à un moment donné, au cœur de ce cantique de lamentation, de deuil, c'est ce qui va l'amener finalement, à un moment donné, à basculer du bon côté dans cette situation terrible, n'est-ce pas ? Quand il dit au chapitre 3, quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe, au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Vous imaginez à un moment donné, là, dans ce spectacle atroce des rues de Jérusalem, de ce temple qui est en ruine et qui a été brûlé, n'est-ce pas? Ces choses affreuses, vous voyez à un moment donné Jérémie qui redresse la tête. Parce qu'il ne s'intéresse pas à la puissance des ténèbres derrière. Il s'intéresse à Dieu. Une fois de plus, voilà un homme qui a une juste vision de Dieu. Et qui est capable, dans cette situation, à un moment donné, de dire mais voilà, je peux en tout cas, et je veux repasser en mon cœur, ce qui va me donner de l'espérance, c'est le caractère de Dieu. Dans cette situation, Dieu ne change pas. les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Le terme bonté, c'est un des plus beaux termes de l'Ancien Testament. Il y a plusieurs termes hébreux qui sont rendus par le seul mot français, bonté. Mais ici, c'est un terme qu'on retrouve 133 fois rien que dans les psaumes, pour parler de la grâce de Dieu, de l'amour inconditionnel de Dieu, de la loyauté de Dieu, de la compassion de Dieu, de l'amour constant de Dieu, de la stabilité dans l'amour de Dieu dans ses relations avec ceux qui le servent et qui le craignent. Et il le dit, n'est-ce pas, cet amour-là, cette grâce-là, cette générosité de cœur, cette loyauté de l'Éternel, tout cela n'est pas épuisé. Les compassions, les tendresses de Dieu ne sont pas à leur terme. C'est Chouraki, bon, il faut faire attention avec Chouraki parce qu'alors parfois il divague complètement parce qu'il invente des mots qui sont quasi incompréhensibles. Et puis c'est un universaliste, ça c'est un autre de ses problèmes. Il pense que quelle que soit la religion que l'on suit, l'essentiel c'est de bien la suivre et avec ça on est sauvé. Mais ceci dit, il est un linguiste de grande réputation et il a une grande culture dans le domaine du judaïsme et d'autres cultures. Et alors là, ce terme tout à fait unique, bonté, il va le rendre par le mot chérissement. Le chérissement de Dieu n'est pas épuisé. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans le début du livre de Job. Pour en extraire deux versets, l'un dans le chapitre 1er, au verset 21, et le second dans le chapitre 2, au verset 10. Au chapitre 1er du livre de Job, verset 21, après la terrifiante cascade de drames qui se sont succédés à un rythme tellement, tellement rapproché. Job se prosterne. Et il dit ceci: « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Et puis au chapitre 2, après ce nouveau drame, où Job est touché alors directement dans sa santé, dans sa personne, et après qu'il ait entendu son épouse désemparé, lui dire « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. » Au verset 10 du chapitre 2, Job répond « Tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien ? Et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Et j'y ajouterai, vous pouvez les chercher si vous êtes rapide, mais c'est simplement pour prolonger ces propos qui prennent un relief saisissant dans le contexte de ces terribles souffrances de Job. J'ajoute simplement quelques versets épars, nous aurions pu en lire bien d'autres. dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 7, dans les versets 13 et 14, regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Au jour du bonheur, jouis du bonheur. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait exactement l'un comme l'autre, de telle sorte que l'homme ne découvre rien de son avenir. Ou encore Ésaïe 45, 7, « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je réalise la paix et je crée le malheur. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Ou encore, livre des Lamentations de Jérémie, chapitre 3, versets 37-38. Qui est celui qui a dit, et cela fut? Le Seigneur n'est-il pas celui qui commande? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent les maux et les biens? Et enfin, sous la plume du prophète Amos, au chapitre 3 et au verset 6, « Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur ?» Et puis enfin, et là je vous encourage à ouvrir votre Bible au psaume 66 pour en lire un extrait. Psaume 66, je lis pour vous les versets 8 à 12. Psaume 66, versets 8 à 12. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme. Il n'a pas permis que notre pied chancelle. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Chers amis, nous avons consacré nos deux études successives d'hier après-midi et d'hier soir à tenter de débroussailler quelque peu ce terrain de la souffrance. Oh, il y aurait eu tant d'autres choses à dire. Mon problème, et vous l'avez peut-être senti, c'était de trier dans tout ce qui s'offrait à nous comme réflexion fondamentale sur ce thème. Surtout, je l'ai dit, à cause des nombreux pièges, à cause des mines antipersonnelles, qui sont d'ailleurs souvent disséminées dans un certain nombre de livres évangéliques, publiés et diffusés par nos librairies. Nous avons terminé notre deuxième étude d'hier soir en nous penchant sur cette question, cette dimension de la souffrance, vue, disons-le en ces termes ce matin, comme une école vers la maturité spirituelle. Et ce sera notre thème, à la fois de l'intervention de cette fin de matinée et de cet après-midi. Ce matin, notre sujet est dans le droit fil de ce que nous parcourions hier soir, mais tout cela est enregistré pour les bien-aimés qui nous rejoignent. Nous avons terminé notre étude en réfléchissant à cette importante question, mais quels sont donc les rôles respectifs de Dieu et de Satan dans les difficultés que rencontre le disciple de Jésus-Christ sur sa route. Je ne vais pas vous redire ce que j'ai dit hier soir pour ceux qui étaient là. Je ne vais pas le dire non plus pour ceux qui nous rejoignent, parce que nous allons tout simplement faire la démonstration biblique qui, finalement, nous permettra de repartager certaines affirmations comme réponse à cette importante question. Mais néanmoins, j'aimerais relire la dernière citation extraite d'un ouvrage remarquable d'un homme de Dieu qui est passé par des chemins de souffrance incompréhensibles qui ont duré, perduré, et qui est auprès du Seigneur maintenant depuis quelques années. Et dans cet ouvrage, il écrit « Il m'apparaît que Dieu et le diable ont quelque chose en commun. Ils sont tous les deux blâmés pour bon nombre de choses qu'ils n'accomplissent pas. Quand quelque chose de déplaisant se produit, pourquoi l'attribuons-nous immédiatement au diable ? Parfois, le plus grand triomphe de Satan consiste à nous faire croire que le sculpteur qui nous modèle est le diable et non Dieu. Donc, sur la base aussi de cette réflexion très juste, très judicieuse, nous allons nous pencher sur Satan et Dieu dans la souffrance à partir d'un exemple ou de plusieurs exemples biographiques, disons, dans les Écritures. Et cet après-midi, je l'annonce dès maintenant, nous allons nous pencher sur ce que j'aime appeler les chemins inexplicables ou énigmatiques de Dieu dans nos vies. Et ici, j'aimerais simplement souligner le fait que ces deux études sont à la fois complémentaires et indissociables. Je m'en voudrais, par exemple, de terminer notre séminaire avec l'étude de ce matin, parce qu'elle méritera non pas d'être corrigée, mais d'être équilibrée pour notre encouragement par celle de cet après-midi. Mais les deux, comme nous allons le voir, sont absolument nécessaires pour nous aider à cheminer de plus en plus d'une manière qui soit agréable à Dieu, y compris dans ces situations de souffrance incompréhensible que nous connaissons tous, plus ou moins, tôt ou tard, dans chacune de nos vies personnelles. Alors, pour évoquer Dieu et Satan dans la souffrance, j'aimerais m'appuyer sur ce que, si j'étais metteur en scène pour la réalisation d'un grand film à suspense, j'intitulerai « La guerre des deux trônes ». La guerre des deux trônes. Il s'agit de cette relation particulièrement tumultueuse et tissée d'un nombre impressionnant de tentatives d'assassinat. Celle de David avec le roi Saül, le roi en place. Période longue qui s'est sans doute étalée sur une dizaine d'années, disons grosso modo, alors que David était âgé de 20 à 30 ans, c'est-à-dire dans une période extrêmement importante de ses débuts de l'âge adulte, où peu à peu on trouve vraiment sa place dans quantité de domaines, et où lui, David, va progressivement être dépouillé de tous ses appuis. De tous ses appuis. Il va perdre sa position, et une position absolument remarquable, dans les proches, conseillers, ministres en quelque sorte, du roi Saül, une sorte de ministre de la guerre, mais en même temps conduisant les armées sur le champ de bataille. Il va donc perdre sa position, il va perdre son travail, il va perdre son épouse, il va perdre sa maison, il va perdre sa famille tribale, il va ensuite perdre son proche conseiller, ce vieillard aîné, plein d'expérience, de sagesse, doué de qualités d'écoute remarquables, qu'est le dernier juge, Samuel, qui va être rappelé auprès de Dieu dans un moment particulièrement difficile, crucial, dans la vie du fugitif David, qui est alors quasi aux abois. Il va même perdre cet ami que nous évoquerons sans doute brièvement cet après-midi, cet ami que Dieu lui a donné précisément à cause de l'intensité et du caractère particulier des souffrances accumulées pendant ces 10 années. Il va perdre la proximité de Jonathan avant que Jonathan ne meure sur le champ de bataille. Il va même perdre sa dignité, puisqu'au sens figuré, il va volontairement perdre la tête, puisque se réfugiant chez le roi philistin Achish, il va jouer le jeu de l'insensé pour échapper, peut-être sans doute, à la mort. Il perd tout. Et ces chapitres 18 à 30 du premier livre de Samuel sont impressionnants à cet égard. Je me souviens, dans la fin de mon enfance et dans mon adolescence, les avoir lus et relus tant et tant de fois avec le cœur palpitant, tant ils sont aussi remarquablement écrits concernant ce drame. Pendant 10 ans, c'est la lutte du roi Saül, le roi selon la chair, le roi selon le cœur des hommes, le roi déchu contre le roi selon le cœur de Dieu. Et combien j'aime cette expression tirée des Écritures de l'Ancien Testament, du premier livre de Samuel, reprise dans le livre des Actes, David, l'homme selon le cœur de Dieu. J'ai trouvé un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Ce sera donc le crescendo d'une haine absolument épouvantable où Saül, le charnel, va lutter à mort contre ce qui est spirituel en David. Ce que Saül lit en David, qui le dérange de plus en plus dans son propre esprit d'indépendance orgueilleuse vis-à-vis de Dieu. Nous pouvons brièvement prendre un échantillon dans le chapitre 18, 1 Samuel, chapitre 18. Je lis à partir du verset 12, parce que David connaît un franc succès. C'est un chef de guerre particulièrement apprécié qui, finalement, va plonger dans l'ombre, va éclipser le généralissime Saül. Et Saül, bien entendu, ne l'apprécie pas du tout. Et au verset 12, il est dit que Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il l'éloigna de sa personne, il l'établit chef de 1000 hommes, parce que le peuple de Dieu parlait de 10 000 et de 1000 pour lui, alors il inverse tout cela, n'est-ce pas? Et David sortait, rentrait à la tête du peuple, il réussissait dans toutes ses entreprises, l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui, mais tout Israël et Juda aimaient David, parce qu'ils sortaient et rentraient à leur tête. Ou encore, plus loin, dans les versets 28 et 29, Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David. Et Michal, sa fille, aimait David. Saül craignit de plus en plus David, et il fut toute sa vie son ennemi. Oh, je vous encourage à lire toutes ces péripéties, ces 3000 hommes d'élite, triés donc sur le volet dans une armée qui était déjà réputée pour ses capacités remarquables à cause du choix qui s'opérait avant que on retienne ceux qui partent au combat, selon le Deutéronome, et avec donc à sa tête, à leur tête, ce généralissime Saül, qui était un vaillant guerrier de toute évidence, et de l'autre côté, David qui interpellera à plusieurs reprises Saül en se présentant à lui comme une puce, comme un chien mort. N'est-ce pas? Quel combat entre une armée d'élite et celui qui, au départ, n'est encore qu'un chef de bande, mais qui va réunir des centaines et des centaines de personnes autour de lui, mécontents du régime en place. Eh bien, voyez-vous, dans le Nouveau Testament, il est dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8 et au verset 7, que les tendances de la chair, c'est-à-dire tout ce qui appartient à notre vieille nature, notre vieille nature ne peut être régénérée. Tout ce qui est chair reste chair, mais la chair a été clouée, n'est-ce pas, sur la croix. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais vous savez néanmoins que, je le disais hier, il est si vite fait dans nos vies de ne pas vivre dans la pratique de ces affirmations de notre position en Christ. Ma vieille nature, c'est vrai, a été crucifiée avec Christ, mais si facilement, je suis tenté de descendre de la croix, n'est-ce pas? Je suis peut-être dans le cercueil, mais de temps à autre, le couvercle bouge et la vieille nature réapparaît. Il me souvient, dans un de mes nombreux voyages en Afrique, d'un séminaire que je donnais sur une station missionnaire au cœur du pays, à Boisflay. Et c'était une station missionnaire assez particulière parce que pour récolter de l'argent, pour pouvoir faire vivre cette station, les missionnaires avaient décidé à un moment donné qu'ils allaient avoir une entreprise de fabrication de cercueils. Et c'était assez impressionnant parce que quand on circulait sur cette station, on voyait ici et là, adossés contre certains murs, des cercueils qui attendaient leur prochain, faut-il dire, locataire ou propriétaire, mais peu importe, n'est-ce pas? Et on m'avait demandé de traiter l'épître de Paul aux Romains, cette cathédrale de la foi chrétienne, et en particulier les 8 premiers chapitres, où il est question justement de la croix sur le vieil homme et du triomphe du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et je me souviens qu'entre deux sessions, pendant un moment où les étudiants se dispersaient sur la station pour reprendre des forces et prendre un peu l'air, il m'était venu à l'idée de faire transporter un de ces cercueils à l'avant, juste devant le pupitre d'où j'enseignais, et j'avais été tenté d'aller plus loin, mais connaissant quand même le contexte culturel, l'arrière-plan de l'Afrique, tout simplement. Je n'avais pas osé le faire parce que c'eût été une plaisanterie de mauvais goût. C'était de demander à l'un de ses étudiants de se glisser dans le cercueil pour que, au moment le plus favorable, pendant que j'expliquais, il fasse bouger, n'est-ce pas? Mais je pense ici à un séjour dans les montagnes du Liban, où, alors que mon épouse et moi, nous étions en train de nous promener quelque peu à pied sur les coteaux de ces montagnes de l'arrière-pays libanais, j'ai vu subitement, tout près de moi, un poulet qui jaillissait presque sous mon nez, s'enfuyant et faisant un petit peu comme les avions, vous savez, qui finissent par partir en vrille et hélas parfois s'écraser. Il a commencé à partir de travers dans toutes les directions jusqu'à ce qu'il s'effondre, animé de derniers soubresauts. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait une personne à proximité avec un joli couteau qui venait de lui trancher la tête, n'est-ce pas ?